Jean chapitre 14, donc je vous demande d'ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean chapitre 14. Et nous allons lire encore au moins les six premiers versets peut-être de ce chapitre. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, donc c'est un peu le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. C'est une réponse que Jésus fait à Thomas après que Jésus dit, « Voilà, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et Thomas dit, « Seigneur, nous, on ne sait pas où tu vas. Et comment pouvons-nous connaître le chemin ?» C'est vrai que si on ne sait pas où il faut aller, quelque part, on ne peut pas savoir quel est le chemin pour y aller. Mais Jésus affirme qu'ils savent le chemin et qu'ils savent où il va et ils savent aussi quel est le chemin. Et donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À chaque fois, on a vu ça plusieurs fois déjà, la première fois, je suis le pain de vie, la seconde, je suis la porte, la troisième, je suis le bon berger, la quatrième, je suis... je suis la lumière, pardon, troisième, on décale, je suis la lumière, merci, heureusement que Charité suit, la lumière, la porte... Le bon berger, quatrième, et puis ensuite le cinquième, je suis la résurrection et la vie. Le septième, je suis le cep, le vrai cep, et puis ici le sixième. Et à chaque fois, Jésus, on a dit Jésus, il révèle quelque chose de lui-même. Et là, il fait une grande proclamation que l'on connaît, que l'on aime utiliser en général. Je suis la lumière et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc je peux... On peut voir un peu, premièrement, que c'est une proclamation descriptive que Jésus Christ fait le concernant lui-même. Il fait une proclamation descriptive de lui-même. Il dit en fait une seule chose, il dit pas trois choses différentes. Je crois qu'il dit trois choses différentes, si vous voulez, enfin, trois expressions différentes, mais pour mettre l'emphase sur qui il est vraiment, Et pour insister, on va voir un peu plus tard sur un aspect particulier de sa personne. Alors il dit qu'il est le chemin. Alors le chemin, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le chemin? Le chemin, ça fait quoi un chemin? Ça sert à quoi? Ça sert à marcher, à aller quelque part. Donc il est le chemin, on pourrait dire qui mène quelque part. Qui mène où? Qui mène au Père, qui mène au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc il est le chemin qui mène vers le ciel, le chemin qui mène vers le Père. On sait quand on lit l'Écriture que le concept du chemin est quand même quelque chose que l'on trouve quand même assez souvent. Déjà en Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, il est dit que Dieu les a chassés du jardin. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour faire quoi? Pour enfermer le chemin. Pour enfermer le chemin. Donc le péché a amené quelque part un chemin bouché, un accès qui a été perdu à Dieu. Et c'est ce qu'on lit dans la Genèse, mais dans la Bible aussi. Puis dans l'Épître aux Hébreux, on a vraiment une grande description du tabernacle. Et on trouve quelque chose qui est assez particulier, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait dans Hébreux chapitre 9 la place, la position, la disposition des choses dans le tabernacle pour dire, en fin de compte, que le Saint-Esprit voulait enseigner par là que le chemin était fermé. Vous avez remarqué ça déjà, hein? Regardez Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Ici. Donc si vous lisez chapitre 9, j'ai dit, pardon. Hébreux chapitre 9. On va lire à partir du verset 2. Il dit, en effet, le tabernacle fut construit, un tabernacle fut construit, dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pur, les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leurs ombres le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, on parle de la disposition des choses ici, hein, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement, il dit que tout cet ordre des choses, la manière avec laquelle ça se passait, le fait que le sacrificateur soit obligé d'offrir pour lui-même, de se purifier même avant d'offrir le sang pour le peuple. Tout cela, le premier voile, le lieu saint, le lieu très saint, toute la disposition ici, dit le Saint-Esprit montre une chose. C'est que le chemin vers le lieu très saint n'était pas ouvert. Et un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, on lit aussi, que, au chapitre 10, hein, versets 19 et 20, donc vous êtes déjà dans Hébreux, chapitre 10, verset 19, dit ainsi donc, nous avons, donc là il parle, une fois que Christ s'est offert, il dit, ainsi donc nous avons, au moyen du sang de Jésus, donc là le sacrifice maintenant ultime a été accompli, une libre entrée dans le sanctuaire par quoi? Par la route nouvelle et vivante. On pourrait dire par le chemin nouveau et vivant. Donc voyez, le chemin se ferme, toute la sacrificature, tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament montre qu'on ne peut pas accéder à Dieu sans qu'il y ait mort, sacrifice, substitution, etc. Donc tout cela, c'est long pour que le peuple puisse apprendre toutes ces choses-là. Quand Christ vient, eh bien, la Bible dit qu'à travers par son sacrifice, nous avons maintenant la possibilité de nous approcher de Dieu. Donc le chemin est enfin ouvert. Une route nouvelle qu'il a inaugurée, nous dit l'Épître aux Hébreux, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et donc, Jésus est donc le chemin, le sacrifice par lequel le chemin vers le sanctuaire est possible. Mais il ne montre pas seulement le chemin, il dit ici qu'il est lui-même le chemin. Hein, comme il l'a fait pour la vie, la résurrection, il est à chaque fois lui-même celui par lequel il faut passer pour pouvoir accéder. Ça veut dire qu'en dehors de lui, on peut pas le faire. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il dit aussi qu'il est la vérité. Alors la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? C'était Pilate qui avait demandé ça à Jésus. Alors comment vous comprenez? Quand Jésus dit qu'il est la vérité, il dit quoi, enfin? Que? Qu'est-ce qu'on trouve sur Jésus concernant la vérité dans l'Écriture? Oui. Alors, par exemple, on n'aura pas le temps de lire tous ces versets, mais beaucoup dans l'Évangile de Jean, il est question aussi de la vérité en rapport avec Jésus. Hein. Mais rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 17, il est dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il est déjà, dès le début de l'évangile de Jean, il est présenté comme celui par lequel la vérité vient, d'accord? Et puis on voit que ses paroles aussi sont la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On trouve ça en Jean chapitre 8, versets 31-32. Il dit la vérité concernant Dieu, hein, Jean 8, 40. Donc, il dit des choses vraies concernant Dieu, la vérité concernant Dieu. Il dit la vérité sur les choses aussi. On trouve ça en Jean 8, 45 et en Jean 16, verset 7. Hein. Pour pas le temps de lire, on n'aura pas le temps de lire tous ces versets-là, mais vous pouvez les noter. Hein. Il dit la vérité sur les choses. Et puis à Pilate, quand Pilate lui demande, quand Pilate l'interroge, il dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quand les gens s'approchaient de lui, ils disaient « Maître, nous savons que tu enseignes selon la vérité. » Et la vérité, nous dit l'apôtre Paul, on peut lire ce verset, Éphésiens 4, 21, quelqu'un peut trouver ça, Éphésiens 4, 21. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus et la vérité ici? Quelqu'un a, vous le lisez, le premier qui l'a trouvé? Voilà, donc on apprend à se dépouiller conformément à quoi? À la vérité qui se trouve où? En Jésus. D'accord? Donc il dit la vérité, il est venu pour un témoignage à la vérité. C'est par lui que la vérité est venue, ses paroles sont vérité et affranchissent. Et puis là, dans le passage que nous lisons, bien, il dit tout simplement qu'il est la vérité. En fait. Il est lui-même l'expression de tout ce qui est vrai. La vérité sur les choses se trouve en Jésus-Christ. Il est cette comment on va dire ça? Oui, l'expression de tout ce qui est vrai concernant l'homme, concernant Dieu, concernant le péché, concernant le jugement, concernant l'histoire de l'humanité. Et puis troisièmement, il dit aussi qu'il est la vie spirituelle, s'entend, mais aussi la vie physique. Hein, c'est lui qui donne la vie physique. Il dit qu'il a la vie en Jean 5, 26. Il dit qu'il a la vie en lui-même. Et en Jean 5, 21, ou Jean 6, 33, Jean 10, 28, il dit qu'il donne aussi la vie. D'accord. Donc voilà le chemin, la vérité, et il est la vie. Donc c'est, on pourrait dire, il fait une description, hein, quelque part, de qui le concerne. Mais il ne fait pas que ça. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il ne fait pas simplement une description de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une proclamation qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler une proclamation exclusive. Il dit « Nul ne peut venir à Dieu sinon par moi ». Donc quand il dit pas « Je suis un chemin », je suis une vérité, je suis une forme, une expression quelque part de la vie, mais il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. D'accord? Et nul ne vient au Père que par moi. Donc il affirme, on pourrait dire avec force, qu'il est le seul, l'unique et que hors de lui, il n'y a aucune vérité possible, pas de vérité. Il n'y a pas de chemin pour accéder à Dieu, et il n'y a pas de vie. Et pour l'homme, vous savez que dire que l'Évangile est la vérité, c'est faire preuve d'arrogance. Si vous dites Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, vous serez taxé d'étroitesse d'esprit. D'accord, tu peux croire en Dieu. D'accord, tu peux dire que Jésus-Christ, c'est ton chemin pour aller à Dieu. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Il n'y a pas qu'une seule religion qui mène à Dieu. Et on veut bien accepter le christianisme à condition qu'il se mette à côté des autres, au même rang, comme à l'époque des à l'époque romaine, dans l'Empire romain au 1er siècle, ils n'étaient pas contre les dieux, hein, ils avaient beaucoup de dieux eux-mêmes. Ils n'étaient pas contre. Si les chrétiens disaient que Jésus est un dieu parmi d'autres, qu'ils pouvaient bien lui trouver une petite place quelque part, le mettre parmi les autres, ça ne poserait aucun problème. Ce qui posait le problème, c'est le caractère exclusif de l'évangile, dire il est le seul chemin. En dehors de lui, c'est la perdition. C'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui pose encore problème aujourd'hui. Si vous dites, oui, bon, toi tu crois comme ça, moi je crois comme ça, après tout, il y a qu'un seul Dieu, et puis je le sens plutôt comme ça parce que je suis né dans un pays chrétien, toi tu le sens plutôt comme ça parce que tu es né dans un pays avec une autre habitude religieuse, ça passe. Mais si vous dites, Jésus, non, les religions ne se valent pas, Jésus est le seul chemin, là, ça pose vraiment un problème. Donc quand Jésus dit ça, il affirme une exclusivité. Et il dit qu'en dehors de lui, c'est rien. C'est lui ou rien. Et c'est ainsi que l'on doit considérer aussi les choses. Alors c'est difficile dans notre époque qui est marquée par le pluralisme, hein, et puis le relativisme. Il n'y a pas de vérité absolue, nous dit-on. On accepte que l'on dise « ça c'est ma vérité ». Mais on n'accepte pas qu'on dise « ça c'est la vérité » qui s'impose à tous. Si vous dites « c'est ma vérité », vous n'aurez aucun problème. Seulement, ce ne sont pas les chrétiens qui ont décidé de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas les chrétiens qui ont décidé de dire ça. Qui c'est qui l'a dit ? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est l'Évangile lui-même qui se déclare comme étant le seul moyen de salut. Alors, est-ce que dans la Bible, vous pouvez penser à d'autres textes qui expriment ce caractère exclusif de Jésus-Christ ? Un peu comme exprimé ici. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça montre que c'est lui ou rien. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui vous viennent à l'esprit où Christ est présenté un peu comme cela, avec ce caractère exclusif? Il y en a d'autres. Acte 4, 12, par exemple. Il n'y a de salut en aucun autre, c'est exclusif ça, c'est très exclusif, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12. Donc ça c'est une expression d'exclusivité, d'exclusivité concernant l'évangile. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, vous rappelez quand on avait étudié le sermon sur la montagne, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui la trouvent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. » Voilà. Il n'y a qu'une seule porte. Elle est étroite, mais c'est la seule qui mène, dit-il, à la vie. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est exclusif aussi. Est-ce que vous en avez? Voilà, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » D'accord? Ça, c'est 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et puis, il y en a encore un, mais il y en a peut-être d'autres, mais un en 1 Corinthiens 3, verset 11, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. » Il n'y a aucun fondement sur lequel on peut bâtir concernant l'Église, seulement sur Jésus-Christ, sur le Christ. Donc c'est vraiment des expressions qu'on appelle des expressions exclusives, qui excluent tout autre. Et l'Évangile est exclusif. C'est pas ni vous ni moi qui l'avez décidé comme ça. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et il a fait bien ce qu'il fait. Alors on entend parfois que toutes les religions se valent, et puis on fait même parfois beaucoup d'efforts pour unifier les religions. On fait beaucoup de dialogues interreligieux. Il faut reconnaître les autres religions, être au moins, considérer qu'elles sont au moins considérables que la nôtre, c'est ce qu'on dit. Éviter les sujets qui fâchent, mieux mettre en valeur les points qui sont des points communs et pas ce qui divise. Mais en fait, est-ce que réellement toutes les religions se valent? On emploie souvent l'analogie de la montagne. C'est-à-dire, vous voulez aller au sommet d'une montagne, vous pouvez la gravir par différents côtés. Tous les chemins, d'accord, ils sont plus ou moins difficiles, plus ou moins tortueux, mais tous mènent finalement au sommet de la montagne. Et il y a qui veulent dire que spirituellement, c'est aussi la même chose. Tous les chemins mènent à Dieu, peu importe comment on l'exprime, par quels moyens, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, etc., ils mènent à Dieu. Et ils sont donc, par ce fait, les religions se valent toutes. Mais ça n'est pas la vérité. Ça n'est pas la vérité. On les force vraiment à être équivalentes en essayant d'effacer toutes les différences. Et quelqu'un a écrit ceci. Il dit les choses ainsi. Il dit, les différences dans les convictions religieuses ont conduit à maintes reprises à des conflits passionnels entre les personnes, à l'aliénation familiale et à des formes violentes de persécution religieuse et dans de nombreux cas à la guerre. Il dit, ainsi, si nous pouvions atteindre une essence religieuse universelle, disait-on, on pourrait mettre fin à ces disputes très coûteuses. Alors le but, bien sûr, dit cet auteur qui s'appelle Sproul, R.C. Sproul, il dit, le but, c'est la paix, mais le prix à payer, c'est la vérité. On va sacrifier la vérité sur l'autel de la paix, ici. Et il ajoute, c'est une chose de rechercher une atmosphère de débat religieux qui se caractérise par la charité. C'est une toute autre chose que de dire que les sujets en discussion ne sont pas importants. C'est une chose de protéger le droit de toute personne religieuse à suivre les ordres de sa conscience sans crainte de persécution. C'est une autre chose de dire que les convictions opposées sont toutes deux vraies. Nous devons noter la différence entre une tolérance égale selon la loi et une validité égale selon la vérité. Il dit qu'un État soit tolérant, qu'on en soit tolérant à l'égard des autres, c'est une chose, mais que l'on dise que les vérités sont égales, ça c'est autre chose, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une vérité et Jésus exprime qu'il est le chemin. Il n'y a que le christianisme qui dit ça. Hein, vous vous rendez compte? Aucun chef religieux dans aucune religion n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Seul Jésus a pu dire une telle chose. Et on doit bien sûr la recevoir et puis la maintenir. Donc Jésus revendique l'exclusivité du moyen pour parvenir à Dieu. Et il faut que les enfants de Dieu proclament cette exclusivité, qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à Christ. Ne pas laisser croire qu'il y a un autre moyen pour arriver à Dieu. Parce que Dieu lui-même dit par quel moyen on arrive jusqu'à lui. Et donc, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est insensé de chercher un autre chemin. C'est une aberration, c'est une absurdité que de chercher un autre chemin, puisque ce chemin n'existe pas. Donc celui qui le cherche, il est insensé. D'accord? C'est comme celui, la Bible dit à plusieurs endroits, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est insensé? Parce qu'il dit qu'il n'y a point de Dieu. Mais c'est pas seulement parce qu'il le dit, c'est parce qu'il le dit alors qu'il y a un Dieu. Donc c'est insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu alors que il y en a. Dieu existe. Et donc c'est pareil ici, c'est insensé de chercher un autre chemin alors qu'il n'y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et l'homme se bat pour trouver un autre chemin. Il fait Dieu menteur, il dit oui, il y a un autre chemin. Alors, il y en a qui cherchent un chemin dans la nature. Voilà. Ça arrive des fois. Il y a des personnes qui disent Dieu est partout et on peut le rencontrer dans la nature. Hein? Mais Dieu ne se rencontre pas dans la nature. Car Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc ça exclut tout autre moyen, y compris la nature. Même si c'est Dieu qui a créé la nature. Et donc ce n'est pas parce que quelque chose donne une information sur Dieu que cette chose permet d'arriver jusqu'à Dieu. La Bible dit que regardez Romains chapitre 1, prenez Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on va lire versets 18 et 20. Quelqu'un peut lire ça? Romains chapitre 1, versets 18 et 20. Quelqu'un là? Romains.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages,
voilà, jusque-là. Oui, ils sont donc inexcusables, c'est vrai. Merci, jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans la création? Verset 20 surtout. Perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ce sont des choses que l'on peut apprendre. Il y a des gens qui disent, ah ouais, quand je vois la nature, tout ce que Dieu a créé, mais c'est sûr qu'il y a un Dieu puissant qui a fait cela. On peut être émerveillé par la beauté que l'on voit dans la nature. On peut avoir des indications sur Dieu dans sa nature. Seulement, ce n'est pas par la nature qu'on arrive au Père ou qu'on va au ciel. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et donc ce n'est pas, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a des informations sur Dieu d'une certaine par la création, par exemple, que c'est par la création, par la nature, que l'on peut atteindre Dieu. Donc, il y a des gens qui disent, oui, on peut connaître Dieu. Voilà, le verset dit, voilà, qu'on peut connaître Dieu. Donc, moi, je cherche Dieu dans la nature. Si on cherche Dieu dans la nature, on est un insensé. Parce qu'il dit que c'est par Christ qu'il faut le chercher. On peut louer Dieu pour la nature qu'il a créée. Mais on ne peut pas le chercher à le rencontrer, d'un point de vue salutaire, par la nature. Ça n'est pas possible. Et c'est une folie. Tous ceux qui cherchent Dieu dans la nature, en fait, fuient Dieu par la nature. Si on cherche Dieu ailleurs que par le moyen qu'il a pourvu, c'est qu'on le fuit, tout simplement. Et on finit par adorer, encore, le chemin que l'on s'est soi-même choisi. C'est ce que l'apôtre Paul dit plus bas, regardez, il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés par leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et après, il dit quoi? Il dit qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur. La nature au lieu du créateur. Parce qu'ils ont pris comme chemin la nature. Et le seul moyen, alors que le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Dieu ne se trouve pas dans la nature. Dieu ne se trouve pas non plus dans les autres. Il y en a qui disent, voilà, moi, je cherche Dieu, mais à travers les autres. Quelqu'un m'a dit une fois, le Seigneur est en toi, c'est un voisin, et il est en moi, et je le rencontre à travers toi dans l'amitié. C'était joli. Mais bon, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Non, si tu veux rencontrer Dieu, il faut le rencontrer par Jésus-Christ dans sa parole. Donc, on ne peut pas dire rencontre Dieu à travers les hommes, par leur gentillesse, voilà, par les échanges qu'ils ont. Dieu est en toi, Dieu est en moi, et voilà, et je le rencontre à travers toi. Hein, ça n'est pas du tout ainsi que les choses sont possibles. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu ne se rencontre pas plus dans la religion. L'apôtre Paul, par exemple, quand il arrive à Athènes, en Actes chapitre 17, il parle devant un parterre de philosophes et il dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement, quoi? Religieux. Extrêmement religieux. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient des objets de dévotion. Il dit, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et donc, il dit que ces gens étaient extrêmement religieux. Mais quelle est sa conclusion? Le texte dit que Paul avait son esprit irrité à la vue de cette ville, comment? Remplie d'idoles. C'est une ville idolâtre. Ils sont religieux et idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent Dieu par un moyen qu'il n'a pas fourni. Il n'y a pas d'autre moyen de chercher Dieu. Tout autre moyen par lequel on le cherche ne devient que de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Si on ne cherche pas Dieu comme il a prévu, on tombe forcément dans l'idolâtrie. Et on peut, en tant que, voilà, dans notre époque aussi, chercher Dieu à travers les rites religieux. Hein. Voilà, je me fais baptiser parce que je cherche Dieu comme ça, je pense que je serai accepté par Dieu parce que je me fais baptiser, ou parce que je participe à la Sainte-Cène, ou parce que je chante à la chorale, ou parce que je m'engage dans ceci ou dans cela. Alors, c'est pas... Bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire, mais si dans mon esprit, dans ma compréhension des choses, c'est ainsi que je vais arriver jusqu'à Dieu, je vais servir, je vais faire des choses, et ça sera ma manière de prouver que... Non, Dieu ne nous reçoit pas sur cette base. Il a dit... Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et donc c'est le faire menteur que de le chercher autrement. Un peu plus bas, dans Jean chapitre 14, 7, Jésus disait, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et en Jean chapitre 1, verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le seul moyen de connaître, d'accéder, d'arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est valable pour la planète, pour l'univers entier. Entier. Ça, c'était le caractère exclusif de cette proclamation de Christ. Mais je voudrais juste terminer avec un peu le caractère, la proclamation ici explicative que Dieu donne. Donc on a vu la proclamation descriptive, proclamation exclusive, et puis c'est une proclamation aussi explicative. Jésus va expliquer un peu tout cela à ses disciples. On va aller un peu plus vite là-dessus, mais regardez au verset Jean, reprenez Jean chapitre 14, et puis on va lire la suite, Jean chapitre 14. La suite... Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà, jusqu'ici... Bien sûr, ces paroles, quand on lit dans ces paroles, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, nous les prenons comme des paroles d'évangélisation, bien souvent, hein, pour amener des personnes au Seigneur en disant, voilà, c'est par Jésus qu'il faut venir, etc. C'est une bonne chose, mais on ne faut pas oublier que ces paroles sont prononcées par Jésus à qui en premier? À ses disciples. Ils étaient où? À quel moment? Ils sont où, là, quand ils parlent? Jean chapitre 14, 15, 16, 13, 14. Il était où? Ça dit ça, qu'il était sur le chemin? La chambre haute. C'est un discours intime. C'est un discours intime de Jésus avec ses disciples. Ils sont dans la chambre haute. C'est le dernier discours de Jésus à ses disciples. On commence à Jean chapitre 13, 13, 14, 15, jusqu'à 16, quoi. Jusqu'à 17 même. Hein. 17, parce que 17, on a la prière. Voilà, donc, faut pas oublier cela. Donc, il s'adresse à ses disciples et il leur dit quoi? Juste au verset 7, il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc, c'est la même pensée, hein. Je suis le chemin qui mène au Père. Il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, Philippe, il comprend pas. Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe parle ici comme si, en fait, hors de Jésus, il y a peut-être encore quelque chose dans ce que Jésus dit qui doit être découvert, c'est-à-dire connaître Dieu, voir Dieu avec ses yeux, c'est peut-être ce qui manque et ce qui pourrait rendre, satisfaire d'une manière plus entière. Il parle quelque part d'avoir une expérience un peu extraordinaire. Voir avec ses yeux Dieu. Qui c'est qui n'a pas envie de voir Dieu? Vous n'avez pas envie de voir Dieu? Je pose la question, hein? Non? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Même la Bible fait du fait de voir Dieu comme quelque chose. Moïse, il a dit quoi? Fais-moi voir ta gloire. Il a voulu voir Dieu. Quand il s'est senti dans une atmosphère tellement, tellement intime avec Dieu qu'il a voulu un pas de plus et voir Dieu. Et parfois, nous sommes aussi un peu comme ça. Enfin, nous pensons que si avec possibilité de voir, ne serait-ce qu'une fois, Dieu, peut-être que ça pourrait booster un peu notre foi ici. Mais Jésus dit à Philippe ici, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment vous comprenez ça? Il dit ici, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Les années suffisent pas, d'accord? D'autres? Intime? D'accord. Et mais il dit, il y a longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. On pourrait dire, et celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord. Je vais rajouter ça avec. Oui. Quelqu'un d'autre? Il n'a pas compris la relation entre Jésus et le Père. Oui. Bien. C'est lui Dieu. Voilà. Oui, c'est ce qu'il dit aussi après. On pourrait aussi penser que Philippe dit, fais-moi voir le Père et cela me suffit. Autrement dit, si je peux le voir de mes yeux, si tu peux faire quelque chose pour qu'on le voit, ce serait une expérience qui pourrait amener une plénitude quelque part. Peut-être une, pas. Et Jésus dit, ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Quelque part, on pourrait penser aussi, c'est comme si Jésus dit, tu m'as vu pendant 3 ans et tu me connais pas. Et c'est comme s'il dit, en fait, voir ne conduit pas, avec les yeux, ne conduit pas forcément à une connaissance plus grande. Parce que ça fait 3 ans que tu es là, tu m'as vu et tu ne me connais pas. Tu sais pas, les disciples n'ont pas encore tout saisi issu de ce que Jésus fait. Donc ici, on pourrait dire que ce que Jésus dit ici, c'est que il ne suffit pas de voir simplement avec ses yeux pour connaître parfaitement, parce que même après 3 ans de contact visible, il n'y a pas cette connaissance, et que on pourrait dire que la conclusion qu'il amène, c'est que voir avec ses yeux n'entraîne pas forcément une meilleure connaissance, ni une plus grande conviction. Par exemple, on peut se rappeler ce que dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, lorsque l'homme riche en proie à la douleur demande à Lazare d'envoyer Lazare pour qu'il puisse parler à ses frères, et Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et puis l'homme riche dit, non, mais si quelqu'un des morts ressuscite et qu'il voit quelqu'un des morts qui est ressuscité, alors ils vont croire. Ils vont croire. Parce que il y a toujours l'idée que voir physiquement avec les yeux, ça amène une plus grande foi, une plus grande connaissance. On peut penser que ce que Jésus dit ici, mais il dit, c'est pas, voir de cette manière n'amène pas forcément une plus grande connaissance. Parce que ça fait 3 ans que tu es avec moi. Et toi, tu ne me connais pas forcément beaucoup plus que cela. Donc Jésus souligne cela. Il souligne aussi que c'est en regardant à lui qu'on voit le Père. D'accord? Mais le mot qu'il utilise ici pour dire, celui qui m'a vu a vu le Père, il ne parle pas de voir simplement avec les yeux physiques, quoi, l'impression rétinienne, hein, pas juste j'ai vu bouger, etc. Mais c'est le fait de voir et de percevoir vraiment qui il est. Hein. Par exemple, quelqu'un fait remarquer que quand vous lisez dans l'évangile de Jean, hein, à la résurrection de Jésus, vous rappelez que Pierre et Jean, ils vont courir jusqu'au tombeau. Quel est celui qui arrive en premier? C'est Jean. La Bible dit qu'il se baisse, il voit, mais il rentre pas. D'accord? Et puis après, il dit, arrive Pierre, qui lui, brum, il rentre à l'intérieur. Et puis, il voit. Et puis, qu'est-ce que fait Jean après cela? Il rentre, et puis la Bible dit, il vit et il crut. Et en fait, les 3 fois où le mot voir est utilisé ici, c'est pas le même mot qui est traduit. Et le dernier où il était dit, où il dit, il vit et il crut, c'est une vision qui perçoit et qui accepte que si les choses sont ainsi, c'est qu'il est ressuscité et qui amène une foi. Donc il y a telle vision, on pourrait dire, qui amène la foi, mais il y a telle autre vision qui n'amène pas forcément la foi. Le fait de voir simplement avec ses yeux ne conduit pas à la foi. Donc et Jésus dit ici, et le mot que j'utilise quand il dit le verset, j'ai pas sous les yeux, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est cette expression de la, c'est une vision, perception. On a perçu, on a saisi qui il est. Le voir avec les yeux de la foi. Il dit celui qui me voit ainsi, qui reçoit, qui conçoit ce que je dis, qui le reçoit, eh bien, il a vu le Père. Et c'est pour cela que les versets après, regardez au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis, verset 10, dans le Père et que le Père est en moi? Notez combien de fois il est question de croire ici. Donc, une, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les a faites. Croyez en moi, c'est la deuxième fois, et je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et donc, on comprend ici que quand Jésus parle de celui qui m'a vu, a vu le Père, il parle de cette manière de voir qui est suscitée par la foi, qui est le résultat de la foi qui reçoit. Quand on croit en lui, qu'on reçoit ce qu'il dit, qu'on accepte, il y a une perception qui vient, une connaissance qui vient, une vision qui vient. Et ça, on retrouve cela dans d'autres passages, par exemple, en Jean 6, 69, quand il dit, et Pierre dit, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus dit à Marthe on avait vu la dernière fois, en Jean chapitre 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il y a des choses que l'on va voir, il y a telle vision qui vient avec la foi. Mais il y a parfois telle vision qu'on peut chercher et qui ne conduira jamais à la foi, qui n'est pas suffisante. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit, tu m'as vu et tu ne me connais pas. Donc on peut voir des choses sans croire. Mais quand on croit vraiment en Christ, eh bien, les yeux s'ouvrent et on peut voir réellement qu'il est le seul chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie, et que le voir, c'est voir le Père, que le Père est en lui, qu'il est, comme il le dit lui-même ici, qu'il est dans le Père. Donc, dans le domaine spirituel, il faut croire pour voir. On pourrait dire que croire, c'est voir, vraiment. Et donc, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il dit, « Croyez, croyez cela. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres, à cause de ses œuvres. » Donc, ce que nous avons à faire, c'est vraiment de placer pleinement notre confiance dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est impossible d'arriver au Père, de connaître Dieu autrement que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ révélé dans sa parole. De croire ce qu'il dit. Et quand nous croyons ce qu'il dit, quand nous recevons ce qu'il dit, c'est ainsi que nous parvenons à voir le Père, à voir Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'extrême, expression, l'ultime expression de Dieu le Père. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Dieu a parlé par les prophètes, par des songes, mais dans les derniers temps, il a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. Prions. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci encore de nous aider à comprendre ces choses et à vivre par elles, et de les proclamer aussi, de ne pas avoir peur d'être aussi affirmatif que tu l'es dans ta parole. C'est toi qui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donne-nous de le recevoir ainsi, de le croire ainsi, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions te voir, mais aussi que nous puissions le proclamer ainsi, sans le diluer, afin que d'autres puissent venir à toi aussi et croire et te voir. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.